This city, of all cities, knows the dream of freedom.
Toi qui souffre, ici on t'aime.
I take pride in the words, Ich bin ein Berliner.
I have a dream.
Il ne durera pas toujours cette guerre.
J'invite tous les militaires français, où qu'ils se trouvent, à se mettre en rapport avec moi.
François Mitterrand l'affirme, il est en pleine santé.
Attendez que la gauche pense everywhere en 2012.
I said I want to fuck her.
Que des mots pas très gentils.
Et tout se résume à aujourd'hui.
Jason l'histoire, ou quand le jazz retrouve quelques repères, une émission de Gérard Viols et Alain Vaquier réalisée par Léna Kim. Ces années-là, 1940-1944. Alors pourquoi avoir pris 4 années, plutôt qu'une comme à l'habitude? Eh bien parce que ces années-là, c'est l'occupation de la France par l'Allemagne. Ce qu'on a autrefois appelé l'occupation avec un grand O commence avec l'armistice du 22 juin 1940 et s'achève avec la libération progressive du territoire à partir de septembre-octobre 1943 en Corse d'abord et de juin à août 1944 en France continentale. Durant cette période, du point de vue de l'ensemble du territoire, il résulte d'une convention d'armistice que la France métropolitaine est divisée en deux parties. Une ligne de démarcation, la zone occupée par l'armée allemande au nord, dite zone occupée, et puis la zone dite libre au sud, censée être gouvernée par l'État français, incarné par le maréchal Pétain. La souveraineté française s'exerce a priori sur l'ensemble du territoire, y compris sur la zone occupée et sur ce que l'on appelait à cette époque l'Empire, c'est-à-dire l'Empire colonial, l'ensemble des colonies dispatchées sur l'ensemble de la planète. Alors cet ensemble de territoires donc, demeure sous l'autorité du gouvernement français, dirigé par le maréchal Pétain, président du Conseil jusqu'au 10 juillet 1940, puis chef de l'État dans le cadre du régime dit de Vichy. En fait, c'est tout le pays qui se trouve inféodé à l'Allemagne nazie. Comme dans tous les pays occupés, la France fait l'objet d'un pillage économique, humain, financier et même territorial, puisque l'Alsace-Lorraine est de facto annexée à l'Allemagne. Le régime de Vichy, qui s'oriente, le fameux État français, qui s'oriente rapidement vers une politique de collaboration, soutient la politique de lutte contre la résistance et mène de manière autonome, avec même un certain entrain, la persécution des Juifs. Et puis, après l'avoir menée dès le départ, elle contribue même à leur déportation en Allemagne et en Pologne. Cette situation de soumission s'accentue lorsque, en novembre 1942, nous y reviendrons, la zone sud est occupée et s'ensuit le débarquement des Alliés en Afrique du Nord. Mais il est trop tôt pour parler encore de cela. Et disons que ces premières années, l'année 1940 notamment, lorsque l'armistice sonne la fin de la guerre, eh bien les Français sont contents d'une certaine façon que la guerre soit terminée et ils ont envie de rire et de s'amuser, paradoxalement.
Pour moi la vie est plus belle et tout est merveilleux.
Le 22 juin 1940, la France signe l'armistice avec l'Allemagne. La guerre est finie, semble-t-il. L'occupation commence. En France, dit-on, tout finit par des chansons, mais souvent tout commence aussi par des chansons. Pendant la drôle de guerre, on chantait « Nous irons pendre notre linge sur la ligne Siegfried ». On chantait aussi « Adolphe, oui, nous t'aurons ». Eh bien oui, on l'a. Mais déjà la vie a repris. Dès le 15 juin, le journal Le Matin reparaît. Le concert Mayol affiche « Immer Paris, toujours Paris ». Rire, avant tout rire. Sourire, à la rigueur. Rire comme boire pour oublier. Amuser, distraire, occuper, comme occupant.
L'occupant a fait tout ce qu'il a pu pour que le théâtre prenne à Paris. Il voulait que Paris reste toujours au moins la capitale des plaisirs du monde. Les petites femmes, le gay Paris, c'était vraiment le, ça faisait partie certainement du plan d'Hitler.
Comment dire, il fallait qu'il continue à se distraire. À se distraire avec des spectacles. Moi, je suis contre, je dis non, parce que rien n'était séparable de la présence allemande. Et ça m'était personnellement désagréable d'aller à un spectacle. Je voyais des officiers allemands, des soldats allemands même, des gens qui étaient là, certes, pour se distraire, eux. Mais le fait d'applaudir à leur côté, le fait de rire à leur côté, m'était déplaisant. J'avais l'impression de commettre une espèce de trahison.
Erinnert sich doch daran, dass Paris einmal ausgestorben war.
Tout était plein. Il y a des gens qui ont fait des fortunes. Les cabarets étaient archi-combles, les théâtres étaient pleins. Il fallait qu'aucune pièce ne marche pas. Il fallait que ce soit vraiment, mais tellement mauvais que... Et encore, même mauvais, il faisait au moins 30 représentations. Et ben, tout le monde se ruait sur tout, il y avait que ça à faire. On pouvait pas faire autre chose. On pouvait pas danser. Pas le droit de danser. Il n'y avait pas de télévision, mais la télévision n'existait pas. Donc, qu'est-ce qu'ils voulaient que fassent les gens? Ils allaient au spectacle.
Le spectacle, en effet, n'a jamais si bien marché. Paris est recouvert d'affiches comme au bon vieux temps. Cinéma, théâtre, cabaret et music-hall sont mobilisés pour faire oublier les rigueurs de la guerre et de l'occupation. Le fallait-il?
Je crois qu'il était nécessaire aussi pour les Parisiens, qui étaient un peu enfermés, c'était très difficile de quitter Paris, ou pour les Français des grandes villes, de pouvoir aller. La vie était très difficile, on avait faim, on mangeait mal, on était sous la botte allemande. De trouver un peu de, d'exutoire ailleurs, c'est-à-dire au théâtre, ou de retrouver, en effet, Piaf, bon, qui chantait « Tant qu'il y avait il y a de la vie, il y a de l'espoir, chassons les papillons noirs ». Bon, c'était ça, c'était envers l'adversité de faire face, de faire front.
Mariage remis jeudi, vu que mardi, jour sans viande.
Bordas.
C'est un extrait d'un film réalisé par André Halimi en 1975, Chantons sous l'occupation, dans lequel vous pouviez entendre successivement et portant témoignage de ce qu'ils avaient vécu, Bruno Cocatrix, ex-directeur emblématique de l'Olympia, Maître Alberno, un ténor du Barreau, Marc Delins, un artiste de cabaret, et pour finir, Claude Pinoteau, réalisateur de cinéma, célèbre réalisateur d'un film appelé La Gifle, dont on se souvient encore. Ces témoignages montrent bien à quel point le spectacle, faute de mieux, permettait aux Français de supporter la situation, car la vie en France sous l'occupation allemande se caractérisait bien sûr par la pénurie et aussi par la répression. Il ne faut pas oublier que même si les gens rient et s'amusent au spectacle, eh bien dans la rue, on se fait contrôler, le contrôle d'identité. On peut être même mis en garde à vue. Et puis, c'est la queue pour se nourrir, puisqu'il y a des tickets de rationnement, et donc pour avoir du sucre, du beurre, de l'huile, des choses qui aujourd'hui nous paraissent totalement élémentaires, eh bien, ça n'est vraiment pas facile. Alors, c'est le paradoxe de cette période qui commence donc en 1940, qui est que malgré la force de la présence étrangère, qui en même temps va déclencher toute une série de dérives, dont le marché noir. Et bien, malgré tout ça, le spectacle et le théâtre notamment n'a jamais été aussi florissant. Et bien, ces années-là, le jazz, quant à lui, il est aussi extrêmement florissant aux États-Unis, et notamment les grandes formations. Alors, il en est une particulière, c'est celle de Andy Kirk, qui est un petit peu le rival de Count Basie, et qui donc vient de Kansas City, et qui propose dans ces années-là « The Clouds of Joy ». Clouds of Joy, le 7 novembre 1940, enregistré à New York par le Andy Kirk and his 12. Ils étaient donc 13. Alors, la caractéristique de ce big band, on va dire ce petit big band, puisqu'il n'était que 13, avec le chef, c'est que la partie de piano est tenue par la première femme musicienne de jazz, peut-être pas tout à fait la première, mais en tout cas qui ne soit pas chanteuse, à tenir un clavier. Il s'agit de Mary Lou Williams, qui non seulement tenait la partie piano, mais avait écrit tous les arrangements de ce big band. Et elle l'a fait avec une maestria tout à fait remarquable, au point que elle reste parmi la vingtaine de génies du jazz qui ont marqué l'histoire de cette musique au XXe siècle. Les mérites d'Andy Kirk donc étaient importants, puisqu'il a su concurrencer la formation de Count Basie, qui était la formation de référence à cette époque dans ce style de jazz. On entend bien les éléments de riff par section d'instruments qui se répondent et qui donnent cette espèce de tempo absolument irrésistible. Il est un autre grand musicien qui, dans les années 40, on peut dire, ça allait être ses années. Il s'agit de Duke Ellington. C'est le moment de 40 à 44, le moment où il va composer le plus, lui et son alter ego, on pourrait dire, Billy Strayhorn, qui tenait le piano dans l'orchestre. Alors il a des musiciens fétiches, Duke Ellington. Il en est un qui joue de la trompette. Il s'agit de Cootsie Williams, qui joue notamment avec la sourdine et qui est un musicien extrêmement virtuose et talentueux. Et donc il va lui composer un morceau spécialement pour lui et ça s'intitule Concerto for Cootsie. Alors en 1940, eh bien aux États-Unis, on compte pas moins de 350 000 jukebox. Alors ça a l'air d'une information sans importance. En réalité, c'est ce qui va permettre, avec et grâce au micro-sillon, ce qui va permettre de diffuser cette musique nouvelle que l'on appelle jazz et qui encore est un petit peu limitée à l'Amérique avant de conquérir le reste du monde. Alors, quelques petites nouvelles de cette année 1940. Eh bien, c'est l'année de la mort de Léon Trotsky, qui est assassiné d'un coup de piolet dans la tête alors qu'il est exilé au Mexique. Et oui, d'un piolet, parce qu'apparemment, son assassin était un fanatique de l'alpinisme, ce qui le rend très, très bizarre, très curieux. C'est également l'année du décès de Scotch Fitzgerald, qui était un écrivain très amateur de jazz. C'est aussi, cette année-là, la fermeture, la fermeture du célèbre Cotton Club qui cesse d'exister alors qu'il a joué un rôle très important dans la première moitié du XXe siècle. Et alors, dans le cadre des bêtises qu'on pouvait dire sur le jazz à cette époque, le grand philosophe, musicologue Theodore W. Adorno a dit la chose suivante. Le jazz peut exercer son rôle uniquement parce qu'on le perçoit non pas sur le mode de l'attention, mais sur fond de conversation et surtout pour danser. C'est pourquoi le jazz est bien agréable à danser, mais exécrable à écouter. Eh bien, comme quoi on peut être un grand philosophe et dire de grosses, mais de très grosses bêtises. Voilà, c'est l'année aussi où l'on enregistre un film Second Chorus avec Fred Astaire qui joue le rôle d'un trompette et il est doublé par le célèbre trompettiste blanc Bobby Hackett. Alors, je disais tout à l'heure que les années 40, c'était les années de Duke Ellington. Eh bien, on va s'en rendre compte une fois de plus. Tout à l'heure, on avait un morceau très écrit, très orchestré. Duke Ellington avait un autre musicien fétiche, c'était son contrebassiste. Malheureusement, lequel contrebassiste va mourir très jeune, à l'âge de 24 ans, de la tuberculose. Il s'agit de Jimmy Blanton. Et cet homme qui a fait véritablement entrer le jeu de contrebasse dans l'âge adulte et dans sa singularité et son jeu tout à fait de soliste, d'instrument de soliste, eh bien, Jimmy Blanton va enregistrer avec Duke Ellington à Chicago le 1er octobre 1940 un duo qui s'appelle Mr. GB Blues. Mais ce Jimmy Blanton Blues, donc enregistré le 1er octobre 1940 à Chicago avec donc au piano Duke Ellington, qui a d'ailleurs des accents un peu monkiens. En étant 40, Thelonious Monk n'apparaîtra que plusieurs années plus tard. Et donc Jimmy Blanton, à qui tous les contrebassistes du monde doivent aujourd'hui de pouvoir jouer pizzicato et de pouvoir improviser. Là, on l'entendait à la fois jouer pizzicato et jouer à l'archet. C'était un musicien assez exceptionnel. Malheureusement, le temps ne lui a pas été donné de faire, d'accomplir complètement sa carrière. Alors, ces années-là, 1940, eh bien, le jazz en France, ça existe. Et ça existe notamment grâce à deux musiciens, Django Reinhardt et Stéphane Grappelli. Alors, il se trouve qu'en 1940, eh bien, Stéphane Grappelli est resté en Angleterre où le groupe avait fait une tournée. Et à l'aube de la guerre, eh bien, Grappelli est resté réfugié, on peut dire, à Londres, ce qu'on ne lui reprochera pas. Quant à Django Reinhardt, lui, il est rentré en France et donc il a vécu la première année de guerre complètement sans aucune restriction, enfin, sans aucune restriction autre qu'alimentaire. Et donc, il reconstitue, sans la présence de Stéphane, évidemment, le Quintet du Club de France avec Hubert Rostin à la clarinette qui va remplacer le jeu au violon de Stéphane Grappelli. Son frère Joseph Reinhardt va jouer de la guitare, Tony Rovira va jouer de la basse, Pierre Fouade à la batterie. Et ils enregistrent à Paris, le 13 décembre 1940, un morceau tout à fait significatif qui est là, le tube, pourrait-on dire, de Django Reinhardt. Eh bien, vous l'aurez deviné, il s'agit de « Nuages ». Ainsi s'achève cette année 1940. Nous aborderons demain l'année 1941, mais c'est une autre histoire.
This city, of all cities, knows the dream of freedom.
Toi qui souffres, ici, on t'aime.
I take pride in the words, Ich bin ein Berliner.
I have a dream.
durera pas toujours, cette guerre.
J'invite tous les militaires français, où qu'ils se trouvent, à se mettre en rapport avec moi.
François Mitterrand l'affirme, il est en pleine santé.
Attendez que la gauche porte the everywhere en 2012.
I said I want to fuck her.
Que des mots pas très gentils.
Et tout se résume à aujourd'hui.